est 8h23.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et l'invité du grand entretien du 7-9 est aujourd'hui le négociateur en chef du Brexit pour l'Union Européenne. Vos questions dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Michel Barnier, bonjour.
Bonjour Nicolas Demorand.
Et merci d'être au micro d'Inter ce matin. On va évidemment parler du Brexit dans quelques instants, mais un mot d'abord du contexte plus général de l'Europe. Dans une longue interview à The Economist, Emmanuel Macron en a appelé au réveil, à la prise de conscience des Européens. Je le cite, le risque est grand à terme que géopolitiquement nous disparaissions, ou en tout cas que nous, Européens, donc, ne soyons plus maîtres de notre destin. Ces mots sont forts, ils sont même sombres. Est-ce que vous partagez l'angoisse, l'inquiétude au moins d'Emmanuel Macron sur le sort de l'Europe ?
Oui, je partage cet appel à l'action collective des Européens, au réveil quand il le faut, et puis un regard lucide sur le monde qui nous entoure et le monde qui nous attend. Quand vous regardez les chiffres des principales économies du monde, dans le G8 aujourd'hui, il y a 4 pays européens, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Et au rythme probable de l'évolution des uns et des autres, dans un monde où parfois on espère encore les Européens, mais plus personne ne nous attend, dans ce monde-là, tous les 10 ans, il y a un des 4 pays européens qui disparaît de la table pour, en 2050, demain ou après-demain, n'avoir que l'Allemagne dans le G8. Donc la question que pose Emmanuel Macron avec ces mots, c'est est-ce qu'on veut être à la table ? Est-ce qu'on se résout à être spectateur ou est-ce qu'on veut être acteur de notre propre destin ? Si on veut être acteur, être à la table où s'organise l'ordre ou le désordre du monde, on est conduit à être européen, encore plus européen, sans cesser d'être patriote. Moi, je dis depuis le début de mon engagement, derrière le général de Gaulle, que je suis passionnément patriote et en même temps passionnément européen.
Mais donc, en tout cas, le président de la République a raison de dramatiser ainsi les enjeux.
Le président de la République est dans son rôle en donnant l'alerte, en tirant le signal d'alarme et en appelant les Européens à être plus unis et sur les grands sujets de ce qu'il appelle la souveraineté européenne et de ce que moi j'appelle la liberté des Européens, agir ensemble est une nécessité. Sinon, on est exclu, on devient sous-traitant ou sous-influence des Chinois et des Américains. Et je ne me suis pas engagé, en ce qui me concerne, en politique, pour être sous-traitant ou sous-influence.
Agir ensemble, c'est un vrai sujet. Il a par ailleurs décrit l'OTAN comme une organisation en état de mort cérébrale, ce qui veut dire mort tout court, affaiblie par la nouvelle politique étrangère américaine, déphasée dans ses règles stratégiques. L'Europe doit en substance prendre dans ce nouveau monde sa défense en main, est-ce que ça n'est pas un serpent de mer, cette idée que, oui, un jour, la défense européenne, peut-être, oui, un jour, une armée européenne, c'est un mantra, non ?
On est au cœur, d'ailleurs, du débat qui oppose quelquefois les Européens. On parlera des Britanniques tout à l'heure, entre l'Europe conçue comme un projet strictement économique, une grande zone de libre-échange, ou l'Europe conçue comme un projet politique, ce qui est l'idée franco-allemande depuis le début. Et moi, je m'inscris dans cette idée que l'Europe doit être un acteur. Il faut lire cette interview dans sa totalité, ne pas s'arrêter à telle ou telle formule. Il y a clairement le besoin de réformer l'OTAN, et l'OTAN reste la pierre angulaire de notre défense territoriale européenne. Nous devons la réformer, y mettre plus de coopération, tirer les leçons de ce qui se passe avec, par exemple, le retrait américain en Syrie ou l'intervention turque. Et en même temps, c'est comme ça que je lis l'interview du président de la République, agir pour une vraie défense européenne. Et là, objectivement, c'est un sujet dans lequel moi je suis engagé depuis très très longtemps, puisque j'ai été l'un des rédacteurs du traité de Lisbonne sur cette question de la défense, il y a des outils dans ce traité qui commencent à être utilisés, la clause de solidarité, la coopération structurée, l'agence de défense, et depuis quelques mois maintenant, pour la première fois, un fonds européen de défense, le budget européen va être utilisé pour des sujets stratégiques, c'est la première fois depuis 60 ans. Donc, de vrais efforts, et prenez le signal qui est fait par la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, c'est d'ailleurs le commissaire de nationalité française, Thierry Breton, qui va être chargé de cette question. Il va y avoir une direction générale de la défense pour la première fois à Bruxelles.
Mais un mot encore, et c'est pas un mot polémique, dès lors que l'OTAN est en état de mort cérébrale, il faut revoir un certain nombre d'options stratégiques. Emmanuel Macron décrit la Russie comme un partenaire stratégique avec lequel, et ça va être compliqué, il va falloir créer une relation. Réponse de Donald Tusk, la Russie n'est pas notre partenaire stratégique, mais notre problème stratégique. L'Europe puissance coloniale, ça part mal quand même, hein.
Je ne vois pas ce que vous voulez dire par l'Europe puissance coloniale.
Oh pardon, collégiale voulais-je dire, excusez-moi, excusez-moi.
Non, parce qu'approuve que je vous écoute en tout cas.
Oui.
Les mots sont importants.
Oui, excusez-moi.
Il y a un problème avec la Russie, nous le voyons bien en Ukraine notamment, mais l'objectif c'est que cet État continent qui est la Russie et qui est là à côté de nous, on voit bien son rôle pas seulement en Europe mais aussi au Proche-Orient et dans le monde entier, doit être à terme un partenaire stratégique pour l'Union européenne, et nous devons imaginer un partenariat avec elle à condition que les règles du jeu soient respectées. Tout cela ne m'empêche pas de dire que ce que ne feront pas les Européens pour eux-mêmes, personne ne viendra le faire à notre place. Personne. C'est ça la leçon du monde d'aujourd'hui. Donc l'appel au sursaut politique des Européens, l'appel à s'engager pour investir davantage, faire plus de politique ensemble sur les grands sujets où se joue notre liberté, notre capacité d'être maître de notre propre destin. C'est le cas du numérique, c'est le cas évidemment du changement climatique qui est le principal défi, c'est le cas de notre sécurité. Voilà un certain nombre de sujets où nous devons agir ensemble plutôt que chacun chez soi et chacun pour soi.
Thierry Breton est le bon homme à la bonne place, élu hier, sa candidature validée hier par le Parlement européen.
Ma réponse est clairement oui. Je connais Thierry Breton depuis longtemps, je sais son engagement européen et on a constaté hier la compétence et la vision qui est la sienne sur l'avenir industriel ou technologique de l'Europe, et je pense que c'est la bonne personne.
Venons-en au Brexit, Michel Barnier. L'UE a donc accordé un report flexible de 3 mois au Royaume-Uni, date butoir, le 31 janvier 2020. Est-ce qu'on peut dire avec certitude qu'à cette date, le divorce entre le Royaume-Uni et l'UE sera consommé, ou il n'y a pas de certitude ?
Il y aura une certitude le jour où les électeurs britanniques, qui sont appelés à voter le 12 décembre, dans quelques semaines, auront choisi une majorité pour approuver l'accord sur le divorce que le Royaume-Uni lui-même a demandé. Nous ne sommes pas demandeurs de ce divorce. Nous n'avons jamais été demandeurs. Nous le regrettons. Ce qui d'ailleurs me permet de dire en passant que j'ai traité comme négociateur européen les conséquences de ce divorce dans un traité de 600 pages pour remettre de la sécurité juridique pour tous ceux et dans tous les secteurs où le divorce crée de l'incertitude, comme tout divorce. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Le Brexit, c'est pas une destination, c'est une étape. Il faut tout reconstruire ensuite et c'est une autre étape qu'il faut engager à condition que le Parlement britannique et le Royaume-Uni assument le choix qu'il a fait de quitter l'Union européenne, et pas seulement l'Union européenne, de quitter le marché unique et de quitter l'Union douanière, ce qui a des conséquences innombrables, notamment pour, je le dis en passant, 4,5 millions de citoyens, 3,5 millions de citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni, qui nous écoutent peut-être en ce moment, et 1,5 million de citoyens britanniques qui vivent en Europe, et pour lesquels nous avons, dans ce traité, trouvé des droits sécurisés.
Vous l'avez dit, des élections ont lieu le 12 décembre, et si je ne m'abuse, il y a bien 3 hypothèses. Soit les conservateurs l'emportent, et le Brexit semble se profiler avec certitude. Les travaillistes, eux, veulent continuer à négocier, quitte à proposer le fruit de cette nouvelle négociation à référendum. Les Lib Dem, eux, ne veulent plus du Brexit. Donc toutes les cartes, en fait, moins une, les conservateurs, sont sur la table. Et le Brexit pourrait ne pas avoir lieu, c'est bien ça ?
Toutes les options que vous avez évoquées sont possibles, selon la volonté des citoyens britanniques. Simplement, il faut qu'on en sorte. Voilà maintenant 3 ans. Plus de 3 ans que les Britanniques ont voté à une majorité pour sortir de l'Union européenne. Nous avons pris acte de cette décision. Personne ne veut empêcher le Brexit en Europe. Nous prenons acte de cette décision, même si nous la regrettons. Nous l'avons mise en œuvre. Nous avons fait un traité pour un divorce ordonné qui ouvre la voie.
Mais il peut ne pas avoir lieu.
Ça dépendra de la volonté populaire. Voilà. Il faut que les Britanniques disent ce qu'ils veulent. Et nous, nous avons fait notre travail, l'Union européenne a fait son travail, elle l'a fait, je le dis en passant, sans agressivité, avec beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour ce grand pays, et je garderai ce respect chevillé au corps dans les négociations futures, mais il faut pouvoir débuter la reconstruction. Le paradoxe de ce Brexit, qui est une affaire négative, c'est lose-lose. Personne n'a été capable de me démontrer la moindre valeur ajoutée du Brexit. Et je le dis en passant à ceux qui avaient imaginé de faire sortir leur pays de l'Union européenne. On voit bien dans le monde d'aujourd'hui, si on revient au premier point de notre dialogue, qu'il vaut mieux être ensemble que chacun chez soi. Mais le plus important, c'est de pouvoir débuter la nouvelle négociation.
Voilà, c'est elle qui est cruciale, parce qu'il va falloir réécrire l'ensemble des règles qui ont été défaites par le Brexit. Donc c'est les règles commerciales, fiscales, de coopération médicale, d'échange d'étudiants, j'en passe. La tâche est titanesque, c'est vous qui allez piloter ce nouveau chantier, Michel Barnier.
Oui, mais c'est pas un travail solide.
Je
vais coordonner sous l'autorité de la présidente de la Commission et dans le cadre d'un mandat qui sera fixé par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement avec le Parlement européen, je vais, comme je l'ai fait depuis trois ans, travailler dans ce cadre-là pour l'unité des Européens et pour reconstruire dans tous les domaines. Vous n'avez pas parlé de coopération judiciaire et policière, de défense, dans tous les domaines, ce que nous aurons détricoté par la volonté des Britanniques. Il y a un point qui est important pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que ce pays n'est pas un pays tiers, comme on le dit, comme tous les autres. Il est là, à côté de nous, et il va y rester. Il est totalement lié à notre économie, parce que nous sommes dans le même marché depuis, avec les mêmes règles, les mêmes standards depuis 44 ans. Et donc, il faut faire attention à ce que la divergence réglementaire que les Britanniques veulent gagner, puisque l'objectif du Brexit est aussi de pouvoir faire de la divergence réglementaire, que cette divergence ne devienne pas un outil de dumping contre nous. Donc j'ai dit...
Il y a un risque. Dumping social, fiscal, environnemental.
Sur le droit des consommateurs, dumping fiscal et dumping contre les droits des travailleurs ou l'environnement. Et donc nous allons clairement dire, et nous disons aux Britanniques, que nous sommes ouverts à un accord de libre-échange, zéro tarif, zéro quota, comme nous l'avons fait avec le Canada ou le Japon, mais ça sera plus que ça, ça sera zéro tarif, zéro quota, zéro dumping.
Ce second accord devra être ratifié par les parlements des États membres de l'Union. C'est la procédure, elle est démocratique, mais quand on voit les difficultés d'un seul parlement, le Parlement britannique, à trancher la question du Brexit, est-ce que le mur le plus haut n'est pas là, au fond, devant nous? Est-ce que vous imaginez un risque que cette phase de ratification devienne 27 débats de politique intérieure?
Mais ce sera un débat dans les 27 parlements nationaux, et j'ajoute, Nicolas Demand, peut-être dans certains parlements régionaux, comme on l'a vu sur l'accord avec le Canada, avec le Parlement de la Wallonie. Et je suis très attentif à ça. C'est pour cette raison précisément que depuis 2 ans et demi, chaque semaine, je visite une capitale, la semaine dernière à Lisbonne, cette semaine à Rome, la semaine prochaine je serai à Zagreb, où je rencontre non seulement le Premier ministre du pays qui m'accueille, mais les syndicats, le patronat et le Parlement national. Cette semaine, j'ai été auditionné par le Parlement italien, la Chambre des députés à Rome, pour que personne ne soit surpris. Comme d'ailleurs, avec cette méthode, personne n'a été surpris au Parlement européen. Nous avons fait je dirais en anglais, du co-building, du traité.
La co-construction. Mais il y a un risque.
Il y a toujours un risque, c'est la démocratie qui existe, de la transparence, de la confiance, du respect, de l'écoute, et puis des conditions qui seront acceptables par les parlements nationaux, notamment l'Assemblée nationale ou le Sénat en France, c'est-à-dire l'idée que nos échanges avec le Royaume-Uni doivent être fairs. Free and fair, libre et équilibré.
Est-ce que et puis je vais donner la parole aux auditeurs de France Inter, est-ce que les leçons du Brexit ont été tirées, Michel Barnier?
Pas encore, et pas toutes, et c'est très important de se dire que il y a des conséquences du Brexit que nous gérons dans cet accord sur le divorce ordonné et sur l'avenir. Il y a aussi pourquoi 52% des Britanniques ont voté contre l'Europe. Il y a sans doute des raisons britanniques à cela, proprement liées aux aspirations, aux nostalgies, aux idées, aux ambitions de ce pays qui est un grand pays, ami et partenaire. Il y a aussi des raisons qu'on trouve un peu partout. Le sentiment d'exclusion, le sentiment d'être abandonné, des régions entièrement désindustrialisées.
Et privées de services publics, avez-vous dit.
Des services publics éloignés. Et donc, ce sentiment-là, que l'Europe ne protège pas assez des conséquences négatives de la mondialisation, cette idée-là, il faut y faire attention. Il ne faut pas confondre ce sentiment populaire avec le populisme. Le sentiment populaire que j'exprime là, moi je l'ai étudié, je l'ai rencontré, je l'ai écouté aussi dans beaucoup de régions d'autres pays européens, le nôtre, la France, mais aussi la Belgique et dans d'autres pays. Ce sentiment populaire, il est profond. Et il faut y répondre. Il y a des réponses au niveau local, avec les circuits courts en matière agricole, les services publics au niveau régional, les services médicaux. Il y a des réponses au niveau national. Personne ne nous oblige à abandonner notre politique industrielle, comme nous l'avons en partie abandonnée en France ou au Royaume-Uni au profit des services. Et puis il y a des réponses européennes. Et le président de la République que vous citiez tout à l'heure a raison d'appeler à plus d'investissements. Nous devons emprunter ensemble pour investir ensemble dans l'avenir et montrer...
Quitte à mettre entre parenthèses la règle d'airain des 3% de déficit.
Mais on a respecté les 3% avec les flexibilités qui existent dans le traité sur ce...
Débat d'un autre âge, a-t-il dit.
Ce que j'appelle le règlement de copropriété de l'euro. Il y a maintenant de nouvelles possibilités parce que les taux d'intérêt sont très bas, on peut investir ensemble. Le plan Juncker, c'est 400 milliards. Le nouveau plan InvestEU sera près de 600 milliards. C'est pas rien et c'est la preuve qu'on peut investir tout en respectant des règles dont l'euro a besoin.
Donc c'est pas un débat d'un autre âge, les 3%.
Encore une fois, méfions-nous des formules. Le président de la République appelle à investir ensemble pour être à la hauteur de ce que font les Chinois ou les Américains.
Et changer le paradigme, arrêter d'avoir le fétichisme des 3% et regarder l'investissement, c'est ce qu'il dit.
Non, mais on peut aussi, avec les flexibilités, respecter... Tout le monde a intérêt à avoir un règlement de copropriété de l'euro. Regardez ce qui s'est passé avec la Grèce, où l'euro a failli exploser. On a intérêt à respecter le même règlement de copropriété et en même temps à investir ensemble comme c'est possible aujourd'hui.
Allez, on va donner la parole aux auditeurs de France Inter. Ils sont très nombreux pour dialoguer avec vous, Michel Barnier. Commençons avec Jeanne. Bonjour et bienvenue.
Bonjour monsieur Barnier. Je voulais demander à monsieur Barnier, que par ailleurs j'ai connu lorsque j'étais en poste au Luxembourg, pourquoi madame von der Leyen a-t-elle mis en œuvre une procédure d'infraction à l'encontre du Royaume-Uni pour défaut de désignation d'un commissaire européen, alors que la nouvelle commission devrait être officialisée au 1er décembre et que par ailleurs ceci semble en porte-à-faux par rapport aux élections qui vont intervenir au Royaume-Uni le 12 novembre. Je dirais techniquement à l'attention de M. Barnier que l'article 17 du traité ne dit pas grand-chose ou sinon rien du tout à ce sujet, sinon que le mandat de la Commission est de 5 ans. Merci monsieur.
Merci madame, la question est très pointue et précise. Michel Barnier vous répond.
Et nous sommes obligés de nous référer au traité, au droit dans cette affaire. Le Royaume-Uni n'est pas encore sorti de l'Union européenne. Il veut en sortir, selon le Premier ministre et selon la volonté populaire, le 31 janvier prochain. Et jusqu'à cette date, il a sa place dans l'Union européenne avec tous ses droits et toutes ses obligations. Et parmi ses obligations, il y a celle, au moment où se met en place une nouvelle commission, de désigner un commissaire. Et il nous indique qu'il ne veut pas le faire. Donc une procédure d'infraction a été lancée contre lui. Ça, c'est la règle et c'est le droit. On ne peut pas échapper à ses responsabilités. Il est dans l'Union jusqu'au bout, jusqu'au moment où il sortira. Le divorce sera consommé avec tous ses droits et toutes ses obligations.
Maël est au standard. Bienvenue.
Bonjour,
et bonjour.
Monsieur Barnier, bonjour à la matinale.
Bonjour.
Monsieur Barnier, que pensez-vous de l'influence de Cambridge Analytica dans les décisions de vote des Britanniques concernant le Brexit ?
Merci pour cette question. Manipulation des données.
Oui, j'ai vu, évidemment, et suivi toutes les enquêtes qui ont été faites sur les influences extérieures et parfois intérieures dans le débat. Mais dans ma position de négociateur, je demande simplement à ceux qui nous écoutent de comprendre que je ne veux pas et que je ne peux pas intervenir dans le débat politique interne du Royaume-Uni. C'était notre force de respecter ce débat. Nous en savons les conditions, nous avons vu toutes ces influences. Il y a des leçons à tirer. Une des leçons que j'ai dites d'ailleurs publiquement à M. Farage dans un débat au Parlement européen, c'est qu'il faut dire la vérité aux citoyens. Ce qui n'a pas été tout à fait le cas pendant la campagne du référendum. Les citoyens, les peuples sont intelligents et on doit leur dire la vérité, y compris quand il s'agit de questions historiques ou extrêmement graves comme celle de savoir si on quitte ou pas l'Union européenne. On doit mener ces débats en disant la vérité.
Une question très concrète et pratique de Ben. Hello, vous dit-il. J'habite à York, en Angleterre, depuis 2 ans. Je vis en couple avec une Anglaise et nous avons 2 chats. Que va-t-il changer? Qu'est-ce qu'il va changer, pardon, pour nous? Qu'est-ce qui va changer pour nous à la fin de l'année prochaine?
Et pour les chats, peut-être aussi.
Aussi, oui.
Non, parce que j'ai dit à propos des chats qui, que Ben peut emmener avec lui quand il traverse le Channel, que nous avons un permis de circulation pour les animaux domestiques. Hein, et c'est un des problèmes.
Ça c'est sauvegardé.
Oui, mais ce qui est surtout sauvegardé, c'est les droits de cette famille qui ont été acquis ou qui seront acquis, comme c'est son cas pour Ben, jusqu'à la fin de l'année 2020, dans le traité que nous avons signé avec Monsieur Johnson et qui doit être maintenant ratifié pour être opérationnel, nous apportons une sécurité maximale à tous ces citoyens, 4 millions de personnes, y compris des couples mixtes, où les droits de résidence et les droits sociaux pour ces gens, pour leurs enfants, leurs familles et pour la durée de leur vie seront préservés. Après, je le dis à nos auditeurs, c'est autre chose. Une fois que le Royaume-Uni est sorti, nous aurons affaire à une politique d'immigration différente et la liberté de circulation qui est une des pierres angulaires du marché unique et de l'Europe sera supprimée.
Quelques questions sur vous, Michel Barnier, pour finir. Beaucoup de nos invités, de Manon Aubry à Jean-Louis Bourlange, c'est dire que le spectre politique était large, on dit au micro de France Inter, assis à votre place, que Michel Barnier aurait fait un très bon commissaire européen après l'épisode Sylvie Goulard. Est-ce qu'on vous l'a proposé, ce poste ?
Mais je ne vais pas faire de commentaires sur cette question. Le choix du commissaire européen, et je l'ai été à deux reprises, donc je n'avais pas de fébrilité, hein, très franchement, appartient au président de la République, c'est son choix, il l'a fait en choisissant Thierry Breton, et je pense que c'est un bon choix.
Mais on vous l'a proposé, ça vous voulez pas le dire,
non ? Je ne vais pas faire de commentaires sur cette question.
La politique française vous manque-t-elle ?
Ce qui manque, c'est le contact avec les gens. Comme je l'ai eu pendant 20 ans, en étant président du département de la Savoie ou député, j'ai besoin, on ne peut pas faire de politique si on n'aime pas les gens. Et donc on a besoin de les rencontrer, parfois de se faire engueuler, de discuter. J'essaie de multiplier ces occasions-là, y compris en France par des conférences et sur le terrain aussi dans d'autres régions d'Europe. Parce que le Brexit, ce n'est pas seulement une question de diplomatie, de négociation technique ou juridique, ça concerne les gens, ça concerne les pêcheurs. Je suis allé sur un bateau au Danemark pour discuter avec les pêcheurs qui pêchent la moitié de leur prise dans les eaux territoriales britanniques. Ça concerne les citoyens comme Ben qui nous a interrogé tout à l'heure. Donc ça me manque un peu et donc j'essaie de retrouver ce contact avec les gens.
Et depuis là où vous êtes, quand vous voyez l'hôpital, les retraites, les étudiants, la police, donc un climat social assez lourd en France, Michel Barnier, est-ce que cela vous inquiète ?
Oui, je suis préoccupé de l'état de tension, d'agressivité, de polémique dans ce pays. Je trouve qu'on devrait retrouver une certaine culture du débat public dans ce pays, c'est-à-dire du respect des autres, de l'écoute des autres. Donc voilà, je pense que le gouvernement a des raisons de vouloir réformer ce pays. D'ailleurs, il a été élu pour cela. On sait que c'est difficile de réformer ce pays. Ça exige beaucoup de respect, beaucoup de dialogue. Voilà ce que je peux dire de ce pays.
Mais le climat est lourd.
Je suis préoccupé de la tension de ce pays. En même temps, il faut avancer.
Patrick, ce sera la dernière question. Vous propose et nous propose de remplacer le couple franco-allemand à bout de souffle par un trio qui inclurait l'Italie. Est-ce une bonne idée ?
Mais il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a la Pologne. Chaque pays a sa place.
Il est affaibli, le couple.
Ce que je sais, moi, de ma propre histoire européenne et de patriote et d'européen, c'est que dans cette communauté européenne qui n'est pas un État fédéral, nous voulons faire une communauté où on mutualise nos destins sans les fusionner, en respectant les identités nationales. Chaque pays, le plus grand comme le plus petit, a une valeur ajoutée. Et j'ai souvent pensé que la coopération franco-allemande, dont notre auditeur parle, elle est de plus en plus nécessaire, de moins en moins suffisante. Il faut faire attention à chacun des autres pays européens. En même temps, on a besoin d'une parole franco-allemande et donc d'un travail entre ces deux pays.
Michel Barnier, merci
à vous
d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Je rappelle que vous êtes le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne et que vous n'avez pas aimé le mot, mais piloter la phase qui arrive devant nous, celle où il va falloir réécrire la séparation de biens, en quelque sorte. Merci encore.
Merci
le carrefour du 7-9 à suivre.